chacun a sa grâce et il ne s'agit pas d'opposer, il s'agit de dire comment chacun a eu sa grâce. Et le pape Jean-Paul II a été vraiment, pour ma génération, qu'on a appelé la génération Jean-Paul II, vraiment quelqu'un de formidable. Mais Benoît XVI, je le trouve assez malmené, peu connu et peu reconnu. Et je me suis dit, ce texte sur l'espérance, cette partie du texte sur l'espérance, pour les couples, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que vous vous heurtez déjà vos fiançailles à des difficultés. Et je m'en suis bien rendu compte et dans les confessions, et vous êtes venus nombreux vous confesser. Vous avez fait travailler les curés, voilà, des suées sang et eau, etc. À 11h du soir, ils étaient encore en train de bénir, etc. Au maximum. C'est bien. Un prêtre ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert pas. À la différence des piles Duracell qui ne s'usent que lorsqu'on s'en sert. Donc du coup, je trouve que c'est un contraste, c'est très beau que vous ayez fait cette démarche. Certains oui, certains non, ça c'est la liberté de chacun. Mais en tout cas, vraiment pour nous prêtres, c'était une joie d'accueillir, de vous accueillir. Et puis donc, comme je vous l'ai dit, ceux qui souhaitent rencontrer en couple, il y a un certain nombre qui se sont inscrits, l'un ou l'autre prêtre, eh bien c'est tout à fait possible dans l'après-midi, en même temps que le temps en couple qui vous sera proposé aussi dans l'après-midi. Mais l'espérance, pourquoi c'est important? C'est important parce que quand on étudie un peu la théologie, vous savez qu'il y a, vous savez ou vous ne savez pas, parce que je sais au niveau SPI, vous êtes un peu à des niveaux assez différents, mais pour votre information, il y a trois vertus théologales. Qu'est-ce qu'on appelle les vertus théologales? Ce sont des vertus qui ont Dieu comme objet et comme source. Et de même, il y a quatre vertus cardinales. Ça, cardinal, normalement, vous devriez connaître. Vous connaissez les vertus cardinales? Ça vous dit quelque chose ou vaguement, pas du tout? Les vertus cardinales, foi. Non, pardon, on a vertu, pas foi. Non, c'est pour voir si vous suiviez. Donc, les vertus cardinales, c'est justice, force, tempérance, prudence. Les vertus théologales, foi, espérance, charité. Ok, bon, il y en a deux, trois qui sont à peu près câblés. C'est bien. Donc du coup, c'est intéressant de voir, bon, on ne va pas parler des vertus aujourd'hui, mais l'espérance, quand on étudie la théologie, on voit ce qu'on appelle les connexions des vertus, parce qu'on est une unité. Qu'est-ce que ça veut dire, la connexion des vertus? Ça veut dire que je ne peux pas avoir une dimension d'espérance sans avoir une dimension de foi, et je ne peux pas avoir une dimension de foi et d'espérance sans aussi pratiquer la charité. C'est-à-dire l'amour à la manière de Dieu. L'amour que vous voulez vivre aussi, vous, entre vous, comme fiancés. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant de parler de l'espérance, parce que on en parle relativement peu. On en parle à la Toussaint. Oui, à la Toussaint, évidemment, on va fleurir les tombes. Alors c'est vrai que c'est... là, on se tourne plus vers l'espérance, vers la vie éternelle, etc. Mais il me semble que comme couple, aussi, vous avez à faire des actes d'espérance. Des actes d'espérance dans votre couple, comme des actes de foi dans votre couple, comme des actes évidemment de charité, d'amour l'un envers l'autre. Alors je vous propose tout simplement de lire et de méditer avec vous. Là aussi, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors ce sera un petit peu moins sexy que hier après-midi, mais en tout cas, c'est pas pour ça que c'est moins intéressant et peut-être moins central aussi dans votre vie à deux. Donc un extrait de l'encyclique Spe Salvi. Alors juste pour ceux qui sont pas un peu au parfum, comment expliquer? Il y a dans l'Église, il y a ce qu'on appelle un magistère. Un magistère, ça veut dire quoi? Un enseignement entre guillemets officiel. Et c'est ça qui nous sauve aussi, parce que du coup, être catholique, on sait ce que c'est. On peut être d'accord, pas d'accord, mais au moins on sait ce que c'est. Il y a d'autres, mais c'est pratiquement la seule religion où, de façon claire, nette et précise, on sait la position de l'Église qu'on pourrait appeler officielle. Par exemple, dans le pentecôtisme, qui sont aussi des chrétiens, les évangéliques qui sont aussi des chrétiens, il n'y a pas de magistère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un compendium de pensées unifiées sur lequel on se retrouve et sur lequel, eh bien, on dit oui, on va baser notre foi. C'est très à la, j'allais dire, la fantaisie ou certains diraient la liberté, si on est bienveillant ou pas, de chacun. Hein, et je ne parle pas évidemment, dans le judaïsme c'est pareil, il n'y a pas de magistère, dans l'islam il n'y a pas de magistère, et je ne parle même pas des religions asiatiques où là il n'y a pas du tout de magistère. Donc du coup, c'est dans l'église catholique qu'il y a un magistère, et je trouve ça intéressant de se dire, il y a un magistère, ça veut dire enseignant, celui qui est maître. Hein. Il y a un enseignement qui est explicite la foi, qui s'enracine dans la parole de Dieu et s'enracine dans la tradition. Je dis ça parce que c'est important de, pour vous aussi, comme jeune chrétien, jeune catholique, que vous sachiez aussi de quoi est composée votre foi, que vous sachiez mettre des mots sur votre foi. Bien souvent, vous avez ce ressenti, vous avez cette confiance en Jésus, vous avez, par votre éducation, il ne faut pas nier la portée de l'éducation, mais vous avez quelque chose qui vraiment vous pousse vers le Seigneur. Maintenant, vous n'avez pas toujours les mots pour expliciter pourquoi vous croyez en Jésus plutôt que en Bouddha ou plutôt que je sais pas quoi, en quelle autre divinité. Hein? Et donc voilà, donc le magistère. Et dans le magistère, il y a plusieurs grades, on peut dire, plusieurs degrés, entre autres ce qu'on appelle les encycliques. Encycliques, ce sont des lettres encycliques, c'est-à-dire qu'encyclique veut dire ce qui s'adresse au monde entier, au monde en tout cas catholique. Et le pape Benoît XVI, dans sa deuxième encyclique, Spe Salvi, juste une question, ça c'est de la culture, hein, ça c'est même pas de la foi, c'est de la culture, Spe Salvi, c'est-à-dire que toute encyclique commence par deux ou trois mots en latin. Donc, vous voulez... vous référez à une encyclique, ben voilà, vous dites, voilà, dans l'encyclique Spe Salvi, et il y a des numéros. Ce n'est pas des pages, parce que les éditions sont différentes, donc c'est numéroté. Voilà, juste un peu pour un peu rappeler le contexte. Au numéro 36 de cette encyclique sur l'espérance, le pape Benoît XVI nous dit la chose suivante. Notre engagement, afin que le monde devienne un peu plus lumineux et un peu plus humain, est important. Rien que ça, oui, rien que cette parole-là. Au fond, est-ce qu'au fond, dans le sacrement du mariage, vous vous engagez aussi pour rendre le monde plus lumineux et plus humain? Et cela fait écho, vous vous souvenez, hier, dans l'échange des consentements et dans le dialogue entre les fiancés et le prêtre, cela fait écho à la dernière question, à la cinquième question, que le prêtre vous posera si vous êtes dans les starting blocks pour le mariage, il vous dira « Êtes-vous prêt à prendre votre place dans l'Église et dans le monde ?» C'est-à-dire que votre amour va rayonner. Votre amour vous dépasse, va bien au-delà de vous-même. Va, bien sûr, dans vos familles, va atteindre vos familles, va atteindre vos proches, vos amis, évidemment vos enfants, et voilà, et puis vos amis, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre, et au fond, c'est ça qui est important, c'est que dans l'Église, même si c'est un engagement personnel, ce n'est jamais un engagement solitaire. C'est-à-dire que on croit, c'est ce qu'on appelle la communion des saints, c'est-à-dire que nous croyons que je ne peux pas dire je sans dire tu, je ne peux pas dire tu sans dire nous, et que ce que je vis retentit aussi sur les autres. De façon mystérieuse, parfois plus claire, mais en tout cas, nous sommes une famille humaine. Alors qu'on voit bien que dans la modernité, nous sommes une juxtaposition d'individus. Ce n'est pas du tout la manière dont l'Église a de considérer l'humanité. Nous sommes famille humaine parce que nous avons un même Père. Donc c'est intéressant que vous-même vous disiez et vous preniez conscience que l'engagement que vous prendrez implique d'autres. Bon, bien sûr, éventuellement, les enfants qui naîtront de votre union, mais déjà implique vos familles, implique vos amis, et puis bien d'autres. Et on voit bien combien aussi les séparations aussi retentissent dans bien d'autres sphères que le couple lui-même. Donc, notre engagement, et le mariage est un engagement, afin que le monde devienne un peu plus lumineux et plus humain, est important. Rien que cette phrase, vous voyez, vous dites, je m'engage pour rendre le monde, pour aimer, et en aimant mon conjoint, je rends le monde plus lumineux et plus humain. Dans notre règle de vie, comme serviteur de Jésus et de Marie, on a un passage, que j'aime beaucoup, qui dit la chose suivante. Pour rapprocher les hommes les uns des autres, nous choisissons de vivre en communauté. Et vous avez, j'imagine, les yeux en face des trous, vous vous rendez compte de qui est qui, même si ça fait depuis que vendredi que vous êtes dans la communauté, avec des différences, des styles très différents, etc. Et plus vous fréquenterez la communauté, plus vous verrez les différences. Mais quelque part, la vie religieuse, je trouve, c'est aussi ce signe qu'une vie ensemble est différente, c'est possible. Et c'est un signe qui est très fort, qui est très fort, alors que justement, dans une logique du monde individualiste et compétitif, c'est le chacun pour soi. Hein. C'est le renard libre dans le poulailler libre. Hein. C'est ça le libéralisme. C'est. Et nous disons, non, nous sommes appelés, nous sommes signes nous aussi comme religieux. Et c'est pour ça que la parole du religieux est pertinente pour les couples. Parce que si vous êtes appelés à vivre une vie commune, nous vivons une vie communautaire. Alors il y a quelques petits détails que nous ne vivons pas, voilà, qu'on fait topo de hier après-midi, ça on ne le vit pas, ça on n'a pas coché la case, mais il y a beaucoup d'autres choses que nous vivons, que ce soit le rapport à l'argent, le rapport au miroir que l'autre nous renvoie dans notre vie communautaire, le rapport parfois à nos familles, et à tout ça nous le vivons. Et donc, c'est pour ça que je trouve que notre parole est pertinente pour les couples et les familles. Parce que précisément, c'est dans cette parole-là que nous pouvons puiser aussi un exemple et un encouragement pour vous qui êtes à l'aube de fonder un couple et une famille. Donc, rien que la première parole du pape Benoît XVI, afin de rendre le monde plus lumineux et plus humain, nous nous engageons. Nous voulons être un signe de l'amour. Et comment, à quoi on reconnaît l'amour? On le reconnaît à l'engagement, au don de soi. Au don de soi. Vous entendrez peut-être des personnes qui vous diront, mais est-ce que on s'aime, mais est-ce qu'il faut vraiment passer par tout ça? Je me souviens comme ça, mais ça n'a pas abouti. Quelqu'un qui me dit, tiens, j'aimerais bien me marier dans une clairière. D'accord? Non, ça ne va pas être possible. Alors, je lui dis, ça ne va pas être possible. En fait, voilà. Il voyait une sorte de mariage, mais déconnecté de la communauté. Déconnecté de la communauté des croyants, déconnecté de la communauté de leur famille, etc. Bon, c'est vrai, pour aimer, pour s'aimer, c'est vrai qu'il y a besoin d'officialiser, etc. Et certains, peut-être d'entre vous, ont plus de difficultés avec la dimension du culte en tant que tel, parce que c'est plus nouveau pour vous. J'ai cru percevoir pour certains d'entre vous que c'est une reprise de contact avec l'Église. Mais en même temps, c'est intéressant de se dire que, à travers cet engagement, à travers cet engagement dans un sacrement, c'est-à-dire dans une liturgie, eh bien, ça fortifie cet engagement, ça le solidifie, ça vous encourage. Ça veut dire que l'Église vous accompagne et que le Seigneur est avec vous. C'est ça que vous voulez. Donc, je trouve que c'est important de dire cet engagement quotidien, hein, dit le Saint-Père dans la suite de la phrase, mais l'engagement quotidien doit être éclairé par une lumière d'une espérance plus grande pour ne pas être qui ne peut être détruite ni par les échecs dans les petites choses, ni par l'effondrement dans des affaires de portée historique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire votre engagement dans l'amour, il faut qu'il soit porté par quelque chose de plus grand que vous. Et c'est, tel que je le comprends, votre démarche quand vous frappez à la porte de l'Église pour recevoir le sacrement du mariage. Peut-être à tâtons, mais vous percevez que dans votre amour, il y a quelque chose de plus grand que vous qui se joue. Il y a quelque chose de plus grand que vous. Et donc, l'espérance doit être éclairée, cet engagement quotidien doit être éclairé par l'espérance plus grande qui ne peut être détruite ni par les échecs dans les petites choses, ni par les effondrements dans les affaires de portée historique. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser aux guerres, on ne peut pas ne pas penser à tout ce qui, bon, dont on est, grâce à Dieu, préservé en France, en tout cas, tout ce qui peut être des grands chocs, des grandes fractures historiques qui atteignent les familles et les couples et les blessent. Mais même des petites choses. L'espérance nous fait croire que l'amour a une portée qui est bien au-delà de ce que l'on peut voir, que nos actes d'amour retentissent dans l'éternité. C'est ça l'espérance. Nos actes d'amour retentissent dans l'éternité. Ça ne remplace pas le discernement. Ça ne remplace pas le fait de se poser des bonnes questions et de dire, voilà, tous nos problèmes vont trouver leur solution dans l'espérance. Pas du tout. Mais une fois qu'on a discerné, et on le sait bien, chaque couple a aussi son histoire et chaque couple vit aussi certains moments, en tout cas on a eu l'exemple hier soir de tempête que vivaient un certain nombre de couples, eh bien oui, nous croyons que l'espérance, c'est-à-dire de mettre notre confiance dans les promesses du Seigneur, eh bien cela nous amènera à aller plus loin que les tracas quotidiens, les échecs dans les petites choses et a fortiori dans les grandes fractures historiques. Si nous ne pouvons pas espérer plus que ce qui est effectivement accessible, ou espérer des autorités politiques et économiques, notre vie se réduit vite, bien vite, à une vie privée d'espérance. Oui, si on ne peut pas aller au-delà de ce que nous promet l'autre, ou de ce que nous promet la société, de ce que nous promettent les politiques, etc., etc., si on n'est pas porté par quelque chose de plus grand que nous-mêmes, et la définition du couple, c'est précisément ça, vous êtes porteur de quelque chose plus grand que vous-même. C'est ça le couple chrétien. C'est ça le sacrement. Vous êtes signe dans votre fragilité. Pas parce que vous êtes parfait, mais vous êtes signe de quelque chose, et a fortiori de quelqu'un plus grand que vous-même. Vous voulez être signe. Dans la fragilité de votre oui, dans la fragilité de votre jeunesse, dans vos imperfections de caractère, mais vous voulez être signe. C'est ça la question. Est-ce que oui ou non vous voulez être signe? C'est capital pour la suite. Si vous ne voulez pas être signe, faites autre chose. Il y a des prestataires de services qui vous proposent des célébrations de mariage laïque, etc. C'est très bien. C'est très bien. Mais ce n'est pas du tout sacramentel. Ce n'est pas du tout de l'ordre du signe. Eh bien, vous voulez, en effet, que espérer davantage que ce que vous promet le monde. C'est pour ça qu'il y a une forme de belle ambition dans le mariage, parce que vous dites, et un beau témoignage aussi auprès de vos proches, nous prenons conscience de nos fragilités. Et hier, on a vu le couple qui a pris conscience de qu'il vous a dit, et qui s'est livré un peu, s'est mis, voilà, à nu devant vous, et qui vous a dit, voilà, on a du mal à vivre ensemble, on a parfois de la difficulté, etc. Mais c'est pas pour ça qu'on va baisser les bras. Dans 50 ans, tu me verras encore. Alors, c'est soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle, selon comment on envisage les choses. Mais je trouvais ça beau, on ne demande pas une perfection. On s'engage pour y arriver, pas parce qu'on y est déjà arrivé. Vous voyez, dans la vie religieuse, par exemple, quand on professe les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, vous imaginez bien que quand on est jeune, c'est pas parce qu'on est déjà arrivé à la perfection de la pratique de ces vœux qu'on va professer la vie religieuse. Mais de même pour le mariage. Vous dites, nous souhaitons y arriver, nous voulons y arriver, nous voulons être... aller dans ce sens-là. Nous voulons aller dans ce sens d'être un signe pour le monde, d'un signe pour le monde d'une espérance dans nos fragilités. Du coup, prenez bien conscience que, au-delà de vous-même, beaucoup de personnes aussi ont les yeux rivés sur vous, dans le sens de beaucoup aussi ont une attention particulière à vous, parce que ce soit vos amis, que ce soit vos familles, vos proches, etc., ben, il y en a beaucoup qui ont des... Et quand on invite, par exemple, à la cérémonie du mariage, ben, la cérémonie du mariage, c'est ça, c'est dire, devant la communauté qui est là rassemblée, devant l'Église, hein, devant le ministre qui reçoit vos consentements, ben, nous voulons être signes dans la fragilité de nos humanités, dans notre jeunesse, dans nos imperfections, mais aussi dans notre confiance. Nous voulons faire confiance. C'est ça la différence entre un croyant et un non-croyant. Le croyant fait confiance. Il n'est pas meilleur que l'autre. Il fait confiance. Le croyant n'est jamais seul. Et ça, c'est énorme, la confiance. C'est énorme. C'est presque synonyme de l'amour. Ça n'empêche pas le discernement. Vous voyez, c'est là où il faut bien manier, ce qui n'est pas si évident. Je vous ai dit hier, il n'y a pas de mariage d'amour qui ne soit pas aussi un mariage de raison. Ça n'empêche pas le discernement. Et en théologie, si vous travaillez un peu la théologie, on vous dit, la grâce ne remplace pas la nature. C'est-à-dire, si au plan naturel, au plan des caractères, il y a trop de difficultés à vivre ensemble, c'est pas le mariage qui va vous résoudre les difficultés à vivre ensemble. Mais si déjà au plan de la nature, il y a une certaine facilité à vivre ensemble, une certaine harmonie, une certaine communion, je veux dire, assez spontanée, assez simple, oui, la foi va vous aider à dépasser les épreuves et à vous porter dans l'espérance. Et vous êtes, en tout cas si vous arrivez au mariage, un signe d'espérance pour d'autres. Que aimer sur le long cours, c'est possible. Hein ? Pour rapprocher les hommes les uns des autres, nous choisissons de vivre en communauté. Et vous pouvez dire, vous, à votre manière, pour rapprocher les hommes et les femmes de ce monde, les uns des autres, nous choisissons cet engagement qui nous dépasse, mais en même temps nous élève et nous soutient. Il est important de savoir ceci. Je peux toujours espérer, même si apparemment pour ma vie ou pour le moment historique que je suis en train de vivre, je n'ai plus rien à espérer. Seule la grande espérance certitude que malgré tous les échecs, ma vie personnelle et l'histoire dans son ensemble sont gardées dans le pouvoir indestructible de l'amour qui, grâce à lui, ont un sens et une importance. Seule une telle espérance peut, dans ce cas, donner encore le courage d'agir et de poursuivre. C'est la grande espérance appuyée sur les promesses de Dieu qui, dans les bons moments comme dans les mauvais, nous donne courage et oriente notre agir. Les hommes d'action sont des hommes d'espérance. Parce que les hommes d'action, forcément, ils ont une dimension intérieure qui les pousse à aller au-delà d'eux-mêmes. Ils ne voient pas forcément le résultat de leurs actions. Ils ne voient pas forcément le résultat de ce qu'ils entreprennent. Des hommes d'action sont des hommes d'espérance. Et donc, si vous agissez, eh bien, c'est que quelque part, vous portez, vous avez cette confiance dans les promesses de Dieu. Vous avez confiance dans la présence de Dieu dans votre couple. C'est ça le mariage à l'Église. C'est que je crois que le Seigneur j'ai besoin du Seigneur et le Seigneur a besoin aussi de se dire par moi, parce que le Seigneur ne peut se dire que par ma propre humanité, que par ma vie. Eh bien, le Seigneur choisit aussi de s'impliquer avec moi dans mon amour, dans cette espérance. On ne demande pas une perfection, on demande juste une confiance. C'est autre chose. La vie chrétienne, c'est autre chose. C'est la confiance. La confiance, le plus grand ennemi de la confiance, c'est certainement la dureté de cœur. La dureté de cœur qui fait que je ne m'ouvre pas à l'autre. Que je laisse l'autre seul. Seul dans ses désirs. On a vu le désir intime hier après-midi, mais il y a bien d'autres désirs. Je les laisse seuls dans ses projets. Si vous vivez une vie matrimoniale, ce n'est pas pour laisser l'autre seul, ni pour prendre des décisions seul. Restez célibataire, mes amis. Mais si vous vous engagez dans la vie matrimoniale, c'est précisément pour vivre les choses à deux. Pour vous soutenir l'un l'autre. Pas pour avoir des vies parallèles, et encore à fortiori des vies qui s'éloignent les unes des uns des autres, parce que l'une de l'autre, parce que ça n'aurait aucun sens. Mais vous voyez comment le fait de lier sa vie, son destin au destin de quelqu'un d'autre, sa vie à la vie de quelqu'un d'autre, eh bien ça demande une confiance. Et d'une certaine manière, un lâcher prise. Accepter de ne pas tout maîtriser. C'est beau cette parole-là du pape Benoît, c'est ce qu'il dit. Seule la grande espérance certitude que malgré tous les échecs, ma vie personnelle et l'histoire dans son ensemble sont gardées dans le pouvoir indestructible de l'amour qui, grâce à lui, ont un sens et une importance. C'est ça être chrétien. C'est je crois que l'amour de Dieu est vainqueur de toute situation. Ça ne va pas être magique. C'est que je crois que dans toute situation, je peux aimer, à la manière de Jésus. Alors ça demande d'élargir le cœur, bien sûr. Ça demande d'élargir le cœur. Et ce qui s'oppose, comme je vous l'ai dit, le plus à ça, c'est la dureté de cœur, c'est le raidissement, c'est la colère, c'est l'orgueil, c'est la volonté d'avoir raison, c'est tout ça qui s'oppose. D'avoir le dernier mot, volonté de dominer. Et tout ça, c'est en nous, en vous, en moi, je veux dire, on est fait de la même pâte humaine. C'est pour ça que vous vous appuyez sur le Seigneur, parce que précisément... Vous prenez conscience de votre fragilité. Précisément, vous prenez conscience que sans lui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Livrés à nous-mêmes, nous sommes capables du pire. Bien sûr. Livrés à nos psychologies blessées, nous sommes capables du pire. Le dernier paragraphe, c'est la grande espérance, appuyée sur les promesses de Dieu, que dans les bons comme dans les mauvais moments, nous donne courage et oriente notre agir. L'espérance, c'est-à-dire ça nous tire vers le haut, c'est-à-dire cette confiance que le Seigneur est là présent, cette dimension transcendante dans votre couple, si vous frappez à la porte de l'Église catholique, si vous avez un désir d'une transcendance, plus ou moins confus, plus ou moins clair. Encore une fois, j'ai vu que ben, vous êtes en chemin. Moi aussi, je suis en chemin. Vous croyez pas que je sois arrivé. Moi aussi, je suis en chemin. Mais vous avez, de façon plus ou moins confuse, comme à tâtons, cette expérience, cette certitude que, voilà, les promesses de Dieu, le Seigneur va tirer votre couple vers le haut. D'où l'importance de la prière en couple. Et je sais bien que c'est compliqué. Et je sais bien que c'est compliqué, d'autant plus si, entre vous deux, au niveau spi, vous n'êtes pas câblés pareil. Il y en a au niveau spi, voilà, il y en a un qui a fait plus d'expériences spirituelles, il y en a qui a l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, voilà, qui sont plus un peu, bon voilà, au taquet, quoi. Et d'autres qui sont moins au taquet, bon voilà. Bon, ben. Mais en même temps, je trouve, en tant que tel, c'est pas forcément une difficulté, juste un petit point. Si on est seul à porter la foi dans le couple et a fortiori dans la famille, eh bien, cette expérience de solitude ne fait que s'accroître. Si on ne peut pas le partager avec l'autre. On ne demande pas à l'autre d'être, entre guillemets, au même niveau. Entre guillemets, si on peut parler de niveau. C'est mal exprimé, mais vous comprenez ce que je veux dire. On ne peut pas demander à l'autre d'être au même, peut-être... engagement au niveau spirituel. Au moins, ce qu'on peut lui demander, c'est de ne pas mettre d'obstacles. L'idéal, quand c'est possible, c'est que vous partagiez ensemble la vie spirituelle. Que vous partagiez cet amour de Dieu. Ensemble. Que vous vous remettiez sous le regard du Seigneur, qui, comme le dit très bien le pape Benoît XVI, bien... Dans les bons comme dans les mauvais moments, ça nous donne courage pour agir. Et ça nous oriente. Ça nous donne un sens. C'est la dernière phrase du premier paragraphe. Jusque-là, ça va? C'est bon? À peu près? Ça vous va à part à peu près? Ensuite, le deuxième paragraphe est très. Je trouve vraiment beau aussi. C'est. Il parle de la souffrance. Comme couple, d'une manière ou d'une autre, vous ferez l'expérience de la souffrance, même si vous êtes peut-être plus préservé que d'autres. Voilà, on ne choisit pas au niveau des santé, au niveau du parcours professionnel, au niveau des enfants, au niveau des relations avec les familles ou belles familles, etc. On ne maîtrise pas tout, bien sûr. La souffrance fait partie aussi de l'existence humaine, dit Benoît XVI. Il faut certainement faire tout pour ce qui est possible, pour atténuer la souffrance, empêcher, dans la mesure où cela est possible, la souffrance des innocents, calmer leur douleur, aider à surmonter la souffrance, les souffrances psychiques. Oui, nous devons tout faire pour surmonter la souffrance, mais l'éliminer complètement du monde n'est pas dans notre possibilité, simplement parce que nous ne pouvons pas nous extraire à notre finitude, parce qu'aucun de nous n'est en mesure d'éliminer le pouvoir du mal et de la faute qui, nous le voyons, est continuellement source de souffrance. Et ça, le Saint-Père, il a, je trouve, une clairvoyance extraordinaire. Il dit, bien sûr que tout ce qui est humainement possible pour éliminer la souffrance des innocents, éliminer les souffrances physiques, etc., les injustices, il faut le faire. Mais il n'est pas en notre pouvoir d'éliminer toute forme de souffrance. N'est pas en notre pouvoir. Que d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas s'extraire à notre finitude, ne serait-ce que par une chose, ne serait-ce parce qu'on aimerait aimer l'autre davantage, ou mieux, et qu'on n'y arrive pas. Et donc du coup, forcément, on en ressent une blessure, on en ressent une insatisfaction tout au moins. Eh bien, oui, nous croyons que cette souffrance-là, on ne peut peut-être pas l'éliminer parce qu'on croit que justement dans le paradis, dans le face-à-face avec Dieu, eh bien, nous aurons une plénitude de l'amour. Mais en attendant, nous sommes dans ce qu'on appelle un régime d'indigence. Ça veut dire quoi, un régime d'indigence ? C'est-à-dire que nous nous aimons faute de mieux, faute d'un amour plénier, total, complet en Dieu, dans la gloire. Mais vous tendez, mais vous êtes aussi signe de ça. C'est-à-dire que votre espérance vous pousse à aller plus loin. Vous pousse à aller plus loin que vos fragilités, que vos défauts. Et c'est en ce sens-là où c'est un signe. Dieu seul pourrait le réaliser. Seul un Dieu qui personnellement, dans l'histoire, en se faisant homme et qui y souffre, nous savons que ce Dieu existe et donc que ce pouvoir nous enlève le péché du monde est présent dans le monde. Par la foi dans l'existence de ce pouvoir, l'espérance de la guérison du monde est apparue dans l'histoire, l'espérance qui nous donne le courage de nous mettre du côté du bien, même là où cela semble sans espérance. Vous voyez, l'espérance, c'est ça, c'est avoir cette confiance que quand j'aime, même si ça peut paraître vain, même si ça peut paraître inutile, quand je rentre dans un acte d'amour désintéressé, quand je rentre dans un acte d'amour de l'autre, dans la vie matrimoniale en particulier, eh bien, cet acte d'amour porte du fruit, et un fruit qui demeure. Nous le croyons. C'est un acte de foi. Parce que j'allais dire, beaucoup de choses nous prouvent le contraire, évidemment. Mais nous le croyons. Chaque fois que vous vous aimez, vous comme couple, d'un amour désintéressé, sans attente de retour, bien nous croyons que cet amour-là rayonne au-delà de vous-même. Et nous croyons aussi que vous en êtes capable. Malgré vos fragilités et malgré vos blessures, non pas par vos propres forces, mais par la grâce que vous recevrez au moment du mariage. Vous êtes capable de cet amour, cette qualité d'amour. Alors, c'est pas magique, c'est, comme on dit en théologie, la grâce ne remplace pas la nature. Encore une fois, il y a un vrai discernement à faire, mais ayez confiance dans la grâce que vous recevrez, en tout cas pour ceux d'entre vous qui sont déjà dans les starting blocks pour le mariage. Ayez confiance dans la grâce que vous recevrez. Demandez des grâces le jour du mariage. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Demandez. S'il y a des lieux, des temps, des circonstances où l'on peut demander, c'est bien ces circonstances, ces lieux et ces temps-là. Demandez des grâces. Parce que dans le sacrement, vous êtes en contact avec le Seigneur. C'est ça, le sacrement, c'est un lieu sûr de contact avec le Seigneur. Bien sûr que Dieu agit au-delà des sept sacrements, c'est évident. Sinon, il n'y aurait pas de conversion, par exemple, possible, de gens qui n'étaient pas baptisés, qui demandent le baptême. C'est évident. L'Esprit Saint, on ne sait d'où il vient ni où il va. Mais nous croyons, nous, comme chrétiens et spécifiquement comme catholiques, que dans les sacrements, Dieu se donne de façon certaine. Et quand Dieu se donne de façon certaine, sa grâce est au rendez-vous. Demandez. Alors c'est vrai que demander, c'est accepter une humilité, c'est accepter une forme de dépendance d'une certaine manière, on peut dire, mais en même temps c'est ouvrir à l'espérance. Demander un amour fort pour l'autre, plus fort que ses défauts, plus fort que les vôtres. Demander vous n'êtes pas réduit à vos psychologies blessées. C'est ça la bonne nouvelle du christianisme. Je ne suis pas réduit à mes psychologies ou à ma psychologie blessée. Et tous ici, moi le premier, nous avons des psychologies blessées. Nous sommes tirés vers le haut. Nous sommes portés vers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est la définition du chrétien. Il porte en lui-même plus grand que lui-même. Au numéro 37. Nous pouvons chercher à limiter la souffrance, à lutter contre elle, mais nous ne pouvons pas l'éliminer. Justement, là où les hommes, dans une tentative d'éviter toute souffrance, cherchent à se soustraire à tout ce qui pourrait signifier souffrance, ils s'enfoncent dans une existence vide, dans laquelle peut-être n'existe pratiquement plus de souffrance, mais où il n'y a plus d'autant plus l'obscure sensation de manque de sens et de la solitude. Ce n'est pas le fait d'esquiver la souffrance, de fuir devant la douleur qui guérit l'homme, mais la capacité d'accepter les tribulations et de mûrir par elles, d'y trouver un sens par l'union au Christ qui a souffert avec un amour infini. C'est-à-dire que les difficultés que vous pourrez rencontrer dans votre vie matrimoniale, hier on a parlé des difficultés de relation, difficultés avec la belle famille, difficultés dans l'intimité du couple, bon, vous connaîtrez, Dieu seul sait, mais le chrétien, ces difficultés-là, il les vit autrement. Il ne demande pas une assurance vie, il ne demande pas un truc sans difficulté. On sait bien que la vie de couple, comme la vie humaine, n'est pas un long fleuve tranquille. Mais nous demandons de ne pas perdre l'espérance et de ne pas perdre l'amour. Et nous demandons ça dans la prière, et nous demandons ça dans l'Eucharistie, dans le sacrement que nous venons de célébrer, là, aujourd'hui, là, quand vous communiez, vous demandez un amour plus fort que le péché et que la mort. Et c'est possible. Les saints nous donnent l'exemple d'un amour plus fort. Laissez-vous tirer par le haut. Et je trouve que, de façon générale, dans les difficultés que les couples rencontrent, c'est ce manque de verticalité qui, au fond, qui les désespèrent, parce qu'ils sont réduits à leur psychologie blessée. Ce manque de verticalité qui, au contraire, qui fait qu'on s'oppose l'un à l'autre, mais dans la prière, dans l'espérance, eh bien, on se remet vers le haut, on se laisse tirer vers le haut par le Seigneur. Et n'hésitez pas à dire, dans votre prière, au nom du sacrement que nous sommes donnés l'un à l'autre, nous te demandons, Seigneur, cette grâce. Comme des pauvres, vous vous mettez à genoux pour supplier la grâce. J'aime cette phrase du curé d'Ars qui dit « L'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. » Si vous priez ensemble, déjà vous êtes sauvés. Vous pouvez avoir 1000 imperfections. On n'est pas là, on n'est pas. C'est pas le club des gens impeccables, ça ne nous intéresse pas. C'est l'assemblée des croyants qui, dans leur pauvreté, font confiance et avancent vers l'éternité. Je vais à l'avant-dernier paragraphe qui commence par « Et enfin, le oui à l'amour est une source de souffrance parce que l'amour existe toujours une sortie de moi, de mon moi, où je me laisse émonder. » Émonder, c'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, émonder, hein, blessé. L'amour, vous voyez ce que c'est, émonder ? Émonder, vous voyez ce que c'est, émonder ? Oh, mais ils sont pas, vous êtes pas dans la... On émonde la vigne. On coupe les rameaux, on coupe tous les trucs qui sont émondés, c'est ça. Vous n'êtes pas des viticulteurs, ça se voit tout de suite. Enfin bon, ben, on peut être sain sans être viticulteur, mais bon, émonder la vigne, justement, on l'émonde pour qu'elle... Il y a des grandes lianes, il y a des grands rameaux, etc. On émonde la vigne pour qu'elle porte un fruit en abondance. Donc du coup, on coupe. De même, la taille des arbres, c'est émonder les arbres. C'est tailler, si tu veux. Émonder, c'est tailler. Je me laisse tailler, blesser. L'amour ne peut nullement exister sans ce renoncement qui m'est aussi douloureux à moi-même. Autrement, il devient pur égoïsme. De ce fait, il s'annule lui-même comme tel. C'est vrai que aimer, d'une certaine manière, c'est sortir de soi-même. Et sortir de nous-mêmes, forcément, c'est une certaine souffrance. C'est une certaine, dans le sens où, forcément, c'est une certaine dépossession de nous-mêmes. C'est une certaine renonciation à nous-mêmes. À notre égoïsme, à notre volonté d'avoir raison, à notre ambition, à notre volonté de pouvoir. Si on ne renonce pas à ça, mais on ne rentre pas dans l'amour. On rentre dans une opposition, dans un conflit permanent. C'est pas gérable, c'est pas possible. Et le fait de se mettre face au Seigneur et de demander au Seigneur sa grâce, c'est que vous vous mettez comme des pauvres. Et donc vous dites, vous ouvrez le cœur au fait de vous laisser émonder aussi, de vous laisser tailler en vous ce qui est du monde, tailler en vous de ce qui est de l'égoïsme, de l'orgueil, de la volonté de dominer, tout ça c'est en nous, et qui s'oppose à l'amour, à ce que vous voulez vivre au fond. Au fond, vous rentrez dans un combat spirituel, contre nous-mêmes d'abord. Alors voilà, j'aimerais terminer, en tout cas vous pouvez méditer sur ce texte de Benoît XVI, sur l'espérance, justement, dans les promesses de Dieu, sur l'espérance que nous sommes invités à être portés par plus grand que nous-mêmes, sur l'espérance qui est source de confiance dans vos propres difficultés, et en même temps, voilà. Vous baissez pas les bras, vous êtes signe aussi de ça.